Bienvenue, il est 7h.
Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Quelqu'un qui est victime, qui a géré aussi mal un tel virus, ne devrait pas être président des États-Unis. C'est la phrase clé qu'on retiendra du dernier duel Trump-Biden avant la présidentielle du 3 novembre. Débat bien plus policé que le précédent. Nous rejoindrons Xavier Yvon, qui l'a suivi cette nuit à la télé américaine. 46 millions de Français sous couvre-feu, 38 nouveaux départements à partir de ce soir. Le virus continue à gagner du terrain, y compris en zone rurale. Les hôpitaux comme les EHPAD vont avoir besoin de bras. La réserve sanitaire sera-t-elle plus efficace que lors de la première vague? Élément de réponse dans ce journal. Nous irons au procès de Sid Ahmed Glam, soupçonné d'avoir tué une jeune femme et d'avoir projeté un attentat contre une église de Villejuif, un accusé mis en difficulté hier. Et puis, le grand sapin de la place Kléber brillera à nouveau. En revanche, le traditionnel marché de Noël de Strasbourg est annulé pour la plus grande déception des habitants, mais aussi des forains.
Et après le journal, couvre-feu donc pour deux tiers des Français. Quel impact pour l'économie? La confiance des chefs d'entreprise s'effondre. L'éclairage éco de Nicolas Barré. À suivre aussi le regard international de Vincent Hervouet sur la déroute politique au Liban et l'édito sport. Très mauvaise ambiance au sein de l'équipe de France féminine de foot qui joue ce soir. Et puis on retrouvera Stéphane Bern juste avant 7h30. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fois, pas de match de boxe, mais un duel à fleuret moucheté. La nuit dernière, Donald Trump et Joe Biden se sont donc affrontés à Nashville, Tennessee. Ultime débat avant la présidentielle. On se souvient des noms d'oiseaux et de l'impression désastreuse laissée par le premier. Cette fois, les micros étaient coupés lorsqu'un candidat n'avait pas la parole.
On va retrouver Xavier Yvon qui vient de suivre ce duel. Xavier, la règle a bien fonctionné. Résultat, un débat beaucoup plus calme que la dernière fois.
Oui, cette fois, on a eu un débat, un vrai. Alors sur le fond, les deux candidats ont dit à peu près la même chose que la dernière fois, mais là au moins, c'était intelligible. Donald Trump a été particulièrement discipliné, levant même le doigt pour demander la parole. Ça ne l'a pas empêché de mentir comme un Pinocchio, a commenté un expert. Joe Biden a, comme attendu, pilonné Donald Trump sur sa gestion de la pandémie qui a fait 220 000 morts.
Anyone who's responsible for that many deaths.
Celui qui est responsable de tant de morts ne peut pas rester au pouvoir. Donald Trump, lui, a mis en difficulté Joe Biden sur son bilan de vice-président et de sénateur, et il a essayé de lui coller une étiquette de politicien corrompu. Vous avez eu beaucoup d'argent de la Russie, peut-être encore maintenant, a insinué le président. Joe, c'est terrible, que se passe-t-il? Accusation, je précise, totalement infondée. Alors, s'il faut désigner un gagnant de ce débat, eh bien, on va dire que ce sont les Américains qui ont enfin pu comparer les deux candidats sur des sujets de fond, la santé, l'immigration ou l'économie. Joe Biden a rempli son contrat. Aucun faux pas qui aurait pu fragiliser son avance dans les sondages. Donald Trump, lui, a évité de mettre le feu. Ça lui avait coûté des points la dernière fois. Il a peut-être rassuré certains républicains hésitants. De toute manière, l'impact de ce dernier duel télévisé sera forcément limité parce que plus de 48 millions d'Américains ont déjà voté. C'est plus d'un tiers du nombre total de votants il y a 4 ans.
Xavier Yvon à New York pour Europe 1.
Il est 7h04 sur Europe 1.
Chaque jour, le nombre de décès augmente. Le mois de novembre sera éprouvant, nous le savons déjà.
Jean Castex l'a dit d'emblée, hier soir, la situation est grave, ce qui explique le nouveau tour de vis. Pour l'instant, il n'est pas question de reconfinement, mais la menace plane et 38 nouveaux départements passent en couvre-feu à partir de ce soir minuit, soit 46 millions de Français au total.
Et la circulation du virus est extrêmement élevée, 41 000 cas ces dernières 24 heures, c'est du jamais vu. Jusqu'ici, les grandes villes étaient les plus touchées, Anne Le Gall, mais selon les derniers chiffres, même les zones rurales sont désormais concernées.
Alors effectivement, dans les départements de la Loire, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de la Haute-Loire par exemple, l'incidence du Covid est plus élevée que dans les Yvelines. Alors comment le virus s'est-il propagé dans ces zones moins denses en population? Eh bien sans doute par les allers-retours des salariés et des étudiants qui travaillent dans les grandes villes les plus proches et qui le ramènent chez eux. Car le problème, c'est que les gestes barrières s'arrêtent souvent à la porte de la maison, surtout dans ces zones qui n'ont pas connu de première vague et qui y sont moins sensibilisées. Dans ce contexte épidémique, les déplacements de 3 millions de Français durant les vacances de la Toussaint risquent-ils d'aggraver encore la situation dans des zones épargnées jusqu'ici ? Eh bien, tout dépendra vraiment du respect des gestes barrières, indiquait il y a quelques jours Daniel Lévy-Brulle, épidémiologiste à Santé publique France.
Même des modélisateurs, aussi chevronnés soient-ils, ne pourront répondre puisque cela fait appel à des données de comportement futur. On n'a aujourd'hui aucun moyen de les anticiper.
Pour l'instant, la Corrèze, le Lot, la Charente-Maritime, le Finistère font partie des départements les moins touchés par le virus. Mais vous l'avez compris, là comme ailleurs, Pour la suite, tout dépendra de notre attitude.
Oui, Anne Le Gall, et d'ailleurs pour aider à mieux tracer le virus, la nouvelle appli Tous Anti-Covid est désormais effective.
Oui, après quelques bugs visiblement hier soir, de nombreux services de réanimation sont déjà débordés, mais on manque aussi de personnel dans les EHPAD.
Et les regards se tournent donc vers la fameuse réserve sanitaire et ses 42 000 volontaires, très critiqués pendant la première vague. On attend de voir si cette réserve va mieux fonctionner cette fois-ci. Qu'en est-il pour l'instant ? Réponse avec Hélène Terzian.
La réserve sanitaire est plus réactive qu'au printemps dernier. Plus d'agents qui répondent au téléphone, des dossiers traités plus rapidement, nous assure la responsable. Selon Catherine Lemorton, la difficulté cette fois, c'est de trouver des bras.
Je vous donne un exemple précis. Nous avons lancé une alerte pour les EHPAD sur tout le territoire métropolitain. Nous avons à ce jour 5 aides-soignants libres pour dimanche pour partir pour une semaine. On n'en a que 5 sur un vivier qui en compte 2963. Là, toutes les zones sont touchées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos réservistes qui sont salariés ne partent pas comme ils veulent, parce que les hôpitaux les retiennent.
Alors le seul profil disponible aujourd'hui, ce sont les jeunes retraités, ceux qui ne sont pas trop à risque. Pierrick Tristan a 55 ans, c'est un ancien infirmier anesthésiste. Il vient de passer un mois dans les Outre-mer en tant que réserviste.
On est vraiment une denrée rare, c'est-à-dire qu'au-delà de 65 ans, la réserve n'envoie plus ces personnes-là sur le terrain.
Face à cette difficulté, les hôpitaux ont trouvé leur solution, solliciter leurs propres retraités sans passer par la réserve sanitaire.
Cette année, Strasbourg ne sera pas la capitale de Noël. Et oui, dans la longue liste des événements annulés pour cause de Covid, il y a désormais le plus grand et le plus célèbre marché de Noël.
Oui, il aurait dû fêter sa 451e édition. Il y aura bien quelques animations, les traditionnelles illuminations, mais pas le moindre chalet, alors qu'on en compte plus de 300 d'habitude. Adieu vin chaud et brais de lait, les fameux gâteaux traditionnels alsaciens. Reportage d'Arthur Elmbaché.
Est-ce qu'il aura des lumières à Strasbourg ?
Oui, normalement il y aura des lumières, ça c'est bon. Pas de chalet, mais des lumières.
T'es contente ?
Oui.
Le grand sapin sera là, les illuminations aussi, de quoi combler la petite strasbourgeoise Élise, sa grand-mère un peu moins.
C'est déjà pas mal qu'il y ait les illuminations et le sapin, et puis on pourra se promener, c'est déjà pas mal. Mais bon, les artisans manqueront quand même, les stands, l'ambiance, la gaufre de Noël, la pomme de Noël, voilà. Tous ces petits plus, les gâteaux de Noël, tout ce qui fait la fête. Chez nous, en Alsace.
La fête et le chiffre d'affaires des artisans, hôteliers et autres forains comme Sassi Benmourdi, dont la famille est présente au marché de Noël de Strasbourg depuis 4 générations.
On va bloquer la ville, on va faire tout ce qu'il faut. Donc qui dit pas de marché de Noël, dit pas de Noël à Strasbourg. On a un mois à perdre, on a des camions qui vont rester garés, donc qu'ils soient garés à Strasbourg ou chez nous ou dans les maisons. Nous, c'est notre gagne-pain, moi c'est ma vie. Là, c'est enlever le pain de la bouche de mon fils et ça, je ne peux pas laisser faire.
En temps normal, le marché de Noël avec ses 2 millions de visiteurs, ça représente 200 millions d'euros de retombées économiques. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe.
Et l'impact économique de ce couvre-feu, il en sera question à 8h15 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité politique de Sonia Mabrouk. Il est 7h08 sur Europe 1, l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, le procès de Sid Ahmed Glam, mais aussi le dernier Bruce Springsteen. C'est dans la suite de votre journal de 7h. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 7h10, la suite du journal Hélène Zellani.
Une semaine jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, l'enquête avance. Les policiers ont fait parler le téléphone du terroriste et ils ont trouvé des échanges en russe avec un djihadiste basé en Syrie. Mmh. Les détails à 8h.
Devant la cour d'assises spéciale de Paris, l'interrogatoire du terroriste présumé Sid Ahmed Glam reprend aujourd'hui. Un homme soupçonné d'avoir tué Aurélie Châtelain et d'avoir projeté un attentat contre une église à Villejuif en 2015.
Oui, un homme qui reconnaît sa radicalisation, même si aujourd'hui il se dit repenti, mais continue à nier le meurtre de la jeune femme. Pour autant, Justin Morin, il n'arrive pas à convaincre.
Oui, il n'a pas avoué, mais vu l'attitude, la posture de Sid Ahmed Glam, c'est tout comme. Un exemple le plus marquant, il a continué de charger son mystérieux complice qu'il assure avoir eu au téléphone la veille des faits, mais dont l'enquête n'a jamais retrouvé la moindre trace. L'avocat des parties civiles. Vous souvenez-vous, monsieur Glam, où est-ce que vous avez jeté ce téléphone ? Oui, c'était vers la voie ferrée, près de chez moi. L'avocat rebondit, désespéré. Le problème quand on raconte des histoires, c'est qu'il faut s'en souvenir d'une fois sur l'autre. Pendant l'instruction, vous avez dit avoir jeté la puce dans les égouts et le téléphone dans une poubelle. Je ne m'en souviens pas. Les réponses de l'accusé sont laborieuses, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Son débit est haché, il s'agace aussi. Situation pénible à supporter pour les parents d'Aurélie Châtelain qui lèvent régulièrement les yeux au ciel. C'est incompréhensible ce que vous dites, monsieur Glam, résume leur avocat. Et c'est parfois littéralement vrai, ces phrases ne mènent nulle part. Après avoir répondu toute la journée, on sent l'accusé fatigué, mais il n'aura pas craqué. La mère d'Aurélie Châtelain s'y attendait malheureusement. Le problème avec les menteurs, m'a-t-elle confié, c'est qu'ils finissent par croire à leurs mensonges.
Et Justin Morin, l'interrogatoire reprend donc ce matin à 9h30. Tariq Ramadan, finalement mis en examen pour viol sur une cinquième femme, des faits qui datent de 2013-2014. Le prédicateur est actuellement en liberté sous contrôle judiciaire.
Allez, un peu de musique à présent à mettre dans votre playlist pour ce week-end. Sortie événement, c'est le nouvel album de Bruce Springsteen.
Letter to You, 20e album du boss, parcouru par le souvenir de ses proches disparus et par le temps qui passe. Un album également fait pour être joué en public, comme ce titre, Ghost.
Bruce Springsteen, album visiblement très autobiographique. Il parle beaucoup de lui, visiblement. C'était le journal d'Hélène Zelani sur Europe 1. Il est 7h12.